Les cours du Collège de France.
Bien, aujourd'hui, je vais discuter des FIPS de Springer-Affine multiplicatives, qui sont aussi connues sous le nom des variétés de Cortwitz et Wiemann. Je crois que c'est les premiers qui ont regardé ces objets. Mais je pense que la terminologie adoptée pour la fibre de Springer-Affine multiplicative et puis les liens avec la fibration de Hitchin multiplicative. Donc, il s'agit des travaux de trois de mes étudiants. Donc, il y avait Boutier, ensuite il y a Chi, et puis c'est plus ou moins terminé avec Wang. Mais ce dont je vais parler, c'est essentiellement les travaux de Jingen Chi. Donc on va avoir F, qui est l'anneau de série formelle, le corps de série de formelle de Laurent, la coefficient d'un K, ou l'anneau de série formelle, et le corps de coefficient et le coefficient supposé un jeu plus long clos. Donc G est un groupe réductif. Donc on va supposer tout est non ramifié, donc c'est un groupe réductif défini sur le corps K. On va faire le changement de base O ou F au besoin. Et T est un tore maximal. De G. Et donc je rappelle qu'on a des coefficients de Cartan. Qui décompose le groupe G de F en une réunion de double classe. Donc on a union de G de O, T lambda et G de O. Donc T lambda, c'est une matrice diagonale. Et ici, lambda parcourt l'ensemble des co-caractères dominants. Les homomorphismes de GM dans T. Je rappelle que parmi ces caractères, il y a un ordre naturel, c'est comme la lambda est plus grand ou égal à mu si lambda moins mu est une somme de coracines positives. Donc c'est une ordre topologique naturelle parce que si on divise de côté par G de O à droite ou à gauche, on a ce qu'on appelle la race moyenne affine. Et à droite, on a des sortes de cellules de Schubert affines qui sont maintenant des variétés dimension finie. Et l'ordre entre les poids reflète en fait l'ordre entre l'ordre topologique de l'adhérence. Voilà, et on a le gamma. Maintenant, c'est un élément régulier semi-simple dans le groupe. Donc, c'est ça le multiplicatif. Au lieu de l'algèbre de Lie, on prend l'élément du groupe, donc qui est un régulier semi-simple. Et on va regarder la fibre de Springer-Affine. Multiplicative qui dépend de deux données. Il y a gamma comme dans le cas de l'algèbre de Lie, mais il y a aussi lambda. Donc c'est un sous-schéma de la Grassmannienne affine. Et au lieu de demander que le G moins A gamma de G soit dans G de O, on va demander que ce soit dans l'une de ces doubles classes. Dans G O de T lambda G de O. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des questions. Est-ce qu'on peut définir c'est en s'en foutant réellement. La réponse est oui, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer là-dessus. Donc si on définit fonctoriellement, ce n'est pas un schéma, c'est un in-schéma, mais une fois qu'on a enlevé tous les nipotents, ça devient vraiment un schéma qui est localement défini et dimension. Mais c'est comme dans les races manières fines, souvent il est plus variable de prendre la version fermée en quelque sorte. Donc on va prendre le x avec un exposant plus petit à lambda. Donc c'est la même chose. Mais on me demande que g moins 1 de gamma de g soit dans l'union de go t mu g de o pour les mu plus petit ou à lambda. Par rapport à cet ordre, donc c'est lambda moins mu soit une somme de racines, de coracines positives. Mu toujours dans un co-caractère dominant. Donc les questions qu'on peut se poser, bien sûr, il s'agit de compter le nombre de points, essentiellement de cette variété qui correspond à l'interne orbital dans le groupe, peut-être conscienté par un réseau. Mais de point de vue géométrique, la question de base, on va se poser, c'est de calculer les dimensions. Il y a vraiment une dimension, c'est quelque chose de localement défini, il y a une dimension de lambda gamma, ou la version fermée, et d'écrire les composantes irréductibles. Donc ça, c'est juste la question qui était résolue par Chi. En fait, il était d'abord annoncé dans le test de Boutier, mais je crois qu'il y a une erreur. C'est Chi qui a trouvé la réponse, une très jolie preuve. Et puis ça, c'est encore... il connaît certains cas, mais il y a une conjecture. Donc je vais expliquer. Je vais expliquer un peu la preuve de Jingunchi pour former une dimension et puis de dire des mots sur les composantes irréductibles qui est quand même assez fascinant en fait.
Est-ce que toutes les composantes ont la même dimension?
Oui. Oui. Donc je rappelle que c'est l'analogue, donc l'analogue additive. L'analogue additive était dans la jette de Lie. Donc là, la situation est beaucoup plus variable. Donc on a un gamma, un élément régulier semi-simple dans F. Et donc là, il n'y a plus de lambda. Donc X gamma, ça va être G dans GF, mot G de O. Tel que l'orthome adjoint de G moins 1 de gamma soit dans un haut point de G. Voilà. Et là, bien sûr, il y a un ensemble de groupes. Donc dans les deux cas, l'ensemble de groupes est essentiel. Donc si on translate à droite, ici, ou plutôt à gauche, c'était moins 1, par le centralité de gamma, ça ne change pas cet élément. Donc si on J gamma de F, donc là c'est le G dans G de F tel que AG moins 1 de gamma égale à gamma. Alors on a ce J gamma de F vu comme un in-group agit sur X gamma. Donc ça, c'est on voit juste la formule. Et puis à l'intérieur de ce groupe, il y a le J gamma de O. C'est essentiellement le sous-groupe maximal qui agit trivialement. C'est le sous-groupe maximal. Donc ça, c'est un tore. Donc là, c'est la partie bornée, c'est un sous-groupe borné qui agit trivialement. Sur X gamma. Donc
Donc ça, c'est la définition un peu naïve, mais il y a en fait il y a un schéma en groupe gigamma défini sur O. Donc ça, c'est le O point qui est donné par la centralité régulière. Donc là, je ne vais pas insister là-dessus, parce qu'on avait parlé beaucoup. Mais naïvement, on peut prendre ce sous-groupe, le groupe qui agit trivialement. Il y a le... Et du coup, on a le gigamma de F, mode gigamma de O. Donc là, ça va être un groupe de dimension finie. Un groupe sur K, sur dimension finie. Donc si on oublie les nipotents, ça devient une dimension finie. Donc qui agit sur... X gamma. Et puis je me rappelle qu'il y avait la version qui est plus sympathique, c'est la partie régulière de la fibre de Springer affine. Donc c'est la même définition, sauf ici on impose que c'est la même chose, mais ici l'équation c'est qu'un AG moins 1 de gamma soit dans G règle O. Ça veut dire même dans la fibre spéciale c'est le régulier. Donc ça conserve, l'action conserve aussi X gamma règle. Donc ça c'est un ouvert. Et ici c'est quasiment par une tautologie, si on définit J gamma comme la centralité régulière, c'est que ça, cette action est simplement transitive. Donc le groupe symétrie agit... simplement transitivement sur la partie régulière. Donc ça, c'est quasiment par définition de J gamma. Et puis, il y a un résultat remarquable de Cashdan et Lustig. Qui démontre que la dimension du complémentaire est strictement plus petit que la dimension de X gamma rec et puis la dimension de P de gamma ou P de A. Alors, je rappelle ça, P de gamma, c'est un groupe sur le corps fini. Et il y a un argument de Kazavlustig qui y avait c'est un peu comme il y a une chaîne de P1, quand on passe d'un bout à l'autre, le composant ne change pas. Et puis, bon, il y a un argument vraiment joli de Cashdan-Lustig qui montre ça. Et du coup, on a la dimension de X gamma est la même que la dimension de X gamma règle. Mais tel quel, on ne peut pas déduire que X gamma règle est dense dans X gamma. Donc, c'est juste que le complémentaire est dimension plus petite par l'argument de Cashdan-Lustig. Mais en fait, si on met ensemble avec la firme de Hitchin, implique en fait que le X gamma règle est dense dans X gamma. Parce que la firme de Hitchin est en fait un truc lisse qui s'envoie sur un truc lisse dont les fibres ne sont pas des fibres d'orientation complète. Et en tant qu'orientation complète, il ne peut pas avoir des composants en dimension plus petite. Donc, du coup, en combinant l'information locale fournie par Cashdan-Lustig et puis la géométrie globale, on arrive à démontrer que ça implique ça. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on veut répliquer dans le cas multiplicatif. D'abord, il faut écrire cette condition-là de façon plus agréable. Donc non pas dans une double classe, mais on veut bien que ce soit dans au point de quelque chose. Il faut construire quelque chose tel que G moins 1 de gamma G soit un haut point 6, bon, si c'est dans cette double classe. Donc ça, c'est le monoïde va régler ça. Et ensuite, sur le monoïde, il va dans tout ce que j'ai raconté dans ce cas particulier implique qu'on a un ouvert régulier, on a un centre régulier. Donc les définitions marchent de même. Mais la situation est plus compliquée. Parce que on a aussi P gamma. qui agit sur x gamma lambda, qui agit sur x gamma lambda régulier. Mais cette action-là est simple, mais n'est pas transitive. Donc il y a que p gamma n'agit pas transitivement sur x lambda gamma rec. Même dans la partie régulière, il y a un problème. Mais ce problème-là, on comprend très bien, ça vient du quotient régulier. Ça veut dire que le quotient régulier n'est pas séparé. Donc ça, c'est plus ou moins c'est compris. Donc là, on comprend exactement, même ça agit simplement, et on peut exactement combien d'orbites il y en a. Mais la partie beaucoup plus dure, en fait, c'est que le x gamma rec n'est pas dense dans ça. Donc x gamma lambda rec n'est pas dense dans x gamma lambda. Même on ne connaît pas toujours, mais quand on peut, on calcule, il y a beaucoup plus de composantes dans le x lambda gamma lambda que dans la partie régulière. Mais quand même, ce qui est vraiment drôle, c'est que si on met ensemble avec le... Ici, on manque complètement le truc de Kazalustic. On ne sait pas, on ne connaît pas cette inégalité. Mais en mettant dans le système global, on arrive à déduire essentiellement les mêmes informations. C'est ça qui est assez drôle. On sait aussi que dimension de x gamma rec, gamma lambda est la même chose que x gamma, que dimension de x gamma lambda rec. Même s'il y a plus de composantes. Et on dit, il y a des composantes qui sont a priori assez mauvaises, où l'ensemble du groupe est très petit. Mais du fait qu'ils se mettent en famille, ça les force d'être en même dimension. Donc c'est ça j'essaie d'expliquer. Donc ça c'est vraiment donc il y a le théorème de Chi. Ça c'est sa formule, ses dimensions de x gamma lambda. C'est bien assez simple. Donc c'est rho lambda. Donc comme d'habitude, lambda est un copoids dominant. Donc ça c'est une somme de demi-somme des racines positives. Donc ça c'est le terme qui n'existait pas dans le cas additif, il n'y a pas de lambda. Et l'autre terme c'est pareil que dans le cas donc ça c'est le terme qui paraît aussi dans le cas additif. Donc il y a un d de gamma c'est sur l'évaluation discriminant et qu'il faut être corrigé par une donnée un peu galoisienne, parce que ça c'est parfois impair. Donc cet entier-là, c'est la différence de rang de G, le rang déployé du centralisateur, un truc comme ça. Et donc ça, il y a ce bout-là qui est présent dans le cas additif, mais il y a ce bout-là qui est propre au cas multiplicatif. Bon, en gros, parce qu'on a le... quand on réinterprète cette définition en termes de quelque chose de plus gros dans un monoïde, on a deux difficultés. On a le bord on a ajouté, le bord cause cette dimension, et donc ce qui est à l'intérieur du groupe en quelque sorte, c'est un peu la même chose que le cas de... Voilà. Donc on va maintenant construire ce... J'ai déjà rappelé brièvement la semaine dernière, mais je vais reprendre ça. Le monoïde qui donne, à l'aide duquel on peut réécrire la fibre de Springer multiplicative un peu de la même façon que la partie que le somnalo additif. Donc ce monoïde de Wilbert Donc il y a un objet, je pense qu'il a un intérêt indépendant. Donc on commence par un groupe G qui est semi-simple et simplement connexe. Et donc T c'est le temps maximal et Z le centre. Donc on va former, il faut ajouter T un tore qui est de même dimension que son rang. Donc G c'est enfin, G fois T divisé par Z. Donc là il agit antidiagonalement. Ça dépend un peu de comment on le met en place. Donc ici, ce G+, il a un homomorphisme vers, d'abord vers GMR. Donc, GMR, c'est le tore maximal du groupe adjoint. Donc là, ça donne par des racines. Et puis, on a le partie G, ça vient du produit de GN de V oméga I. Donc ça, c'est donné par les racines simples, et là, c'est donné par les poids fondamentaux, les représentations fondamentales. Donc, par exemple, on écrit, je vais écrire la formule, si je me souviens, donc il y a rho plus de G de T. Ça va être tout simplement ici, c'est des alpha i de t, donc ça ne dépend pas de g. Et de l'autre côté, c'est des rho oméga i de g, mais je vais ajouter le oméga i de t ici. Donc c'est ça, c'est vraiment cette multiplication qui fait l'intérêt de la chose. Donc vous voyez que c'est exactement, c'est désigné pour. Pour refaire en quelque sorte le décompte de Cartan. Parce que le Cartan, on va dire que, quand on prend le rho, pour les tensions extérieures d'une matrice, et ensuite qu'on veut que le PGCD des coefficients soit donné. Donc c'est exactement la même chose qu'après multiplier par un cas scalaire, ça devient une matrice entière. Donc c'est ça, c'est cette matrice entière, c'est ça le scalaire qu'il faut pour multiplier la matrice extérieure que ça entière. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une autre façon de refaire des Cartan. Donc on a V de G, ça va être la couture. Donc ça, c'est en fait une dimension fermée. Donc la seule chose qui est triviale, c'est Z. Donc il est triviale ici, et puis ici, parce que ça plombe diagonalement, ça s'annule. Et V de G, ça va être l'adhérence dans les AR fois les endomorphismes. Et puis à l'intérieur, il y a un truc joli, c'est V0 de G. On va faire la même chose, les adhérences, mais on a fait l'endomorphisme, mais moins 0. On enlève 0 dans les endomorphismes. Et il se trouve que V0G est un ouvert lisse. Et VG, c'est une vérité normale, et V0G c'est une ouverte lisse là-dedans, et qui est. Et qui s'envoie sur G à barre. Donc ça c'est la compartification magnifique. Et là c'est un T-torseur. Donc c'est la commande magnifique, on sait calculer le groupe de Picard. Le groupe de Picard, c'est le groupe ABDO libre. Et donc, parce qu'on connaît le groupe de Picard, il a un tétorseur universel. Et donc, ça, c'est V0 de G. Et le VG est simplement la clôture affine. De V2G, de V0G0. Donc ça, on pourrait prendre ça comme définition. On pourrait prendre la compagnie magnifique, on prend le torse universel, on peut prendre l'adhérence, la couture affine. Ou on peut commencer par le module de Weinberg, on prend la partie lisse, partie V0 de G, et on divise par T. Donc ça, c'est au choix. Donc en tout cas, donc il y a déjà ce bout. Il y a ce bout là qui est le bout abélien on a VG divisé par G fois G. C'est qu'on appelle A de G, c'est juste A puissance R. C'est vraiment l'espace affine type, parce que là on prend racine simple par racine simple. Je vais essayer d'écrire précisément la relation avec les doubles classes de Cartan. Tout d'abord, pour ce AR, on va regarder en fait les morphismes de GM dans GMR, tel qu'il se prolonge en A1 dans AR. Donc ça, c'est le T adjoint. Et donc, ici, c'est le homomorphisme, c'est le groupe de co-caractères de T adjoint. Et la condition pour qu'il se prolonge en une morphisme de A1 vers AR, c'est pour qu'il n'est dominant. Donc, lambda dans le groupe de co-caractères de T adjoint est plus dominant. Donc, le fait qu'il prolonge à A1, c'est équivalent à dominant. Donc, en quelque sorte, ce diagramme-là, si on fait l'image réciproque de tout par ce diagramme, on retrouve un autre monoïde. Donc c'est une sorte de monoïde qui adapte à lambda. Mais je vais pas le faire, ça introduit plus de notation que nécessaire pour aujourd'hui. Mais je peux dire que si on a lambda dans ici, et puis on va prendre le point T à la puissance W0 lambda, donc ici cette évolution peut être des arias, prend W0, on fait le moins, donc qui est toujours dans le même cône. Alors on a G plus dans G plus de F qui s'envoie sur T moins W0 lambda, donc qui est dans le GM R à la puissance F. Alors la FIP de ceci, alors G plus soit dans G plus de F et un haut point du Weinberg, 0, si de ce moment-ci, son image dans le groupe adjoint si G plus adjoint dans G adjoint de F, soit dans G adjoint de O, T lambda G adjoint de O. Donc dans ce sens-là, on voit que les points de ce AR classifient un peu les poids, les copas dominants de copas adjoints, et les FIP sont des doubles classes dans le carton. Donc c'est ça qui est l'intérêt du monoïde de Weinberg. Et puis si on enlève le 0 ici, plus de O, et je ne suis pas surpris que c'est ici le moment-ci que j'ai hâte l'image du groupe adjoint soit dans la réunion des classes plus petites ou égales. Donc mu 0 de g hat 0 t mu g de o. Voilà. Donc voilà cette construction de très jolie de Weinberg met en famille les doubles classes de carton. Là, la démonstration est vraiment facile, c'est la même que dans le que j'ai expliqué dans GNLN, on prend les matrices extérieures, puis on prend le PGCD. Donc du coup, maintenant, une fois qu'on est là, c'est assez facile de formellement. Un peu les mêmes choses que dans le cas de l'algèbre de Lie. Donc on a des interorbitants, ça vient donc on regarde VG, le quotient par G agit par conjugaison. Donc j'écris apt pour ne pas se tromper. Bon, il y a la gauche, la droite, mais là on va prendre l'axiome diagonale, agit par. Et là c'est donc il y a le bout AR, donc ça c'est le AG, donc c'est le quotient total par G fois G, donc c'est le abélien. Et puis un autre AR qui est le TSC divisé par W. Donc là c'est donné par si on a. Donc si on, ici on a G plus, et bien T fois G. Donc ici on a les alpha I de T. Et puis là, on a les traces de oméga i de t fois rho oméga i de g. Ce sont les traces dans les représentations fondamentales. Et on peut démontrer qu'en fait, ces fonctions engendrent l'algèbre de fonctions invariantes. Et. Et je rappelle que Steinberg construit des sections. Donc il y a un morphisme de G vers donc G est simplement convexe vers TSC W, donc qui est un espace affine, donc consiste à les traces dans les représentations fondamentales. Et Steinberg construit des sections. Ce morphisme. Et ce qui est assez remarquable, c'est que Steinberg, pour une section, Steinberg choisit un élément de courbe sectaire. Donc, Steinberg, la construction de Steinberg dépend du choix d'un élément de courbe sectaire. Donc, il y a des racines simples, S. C'est l'ensemble des racines simples. Delta, c'est des racines simples. Et puis, donc, à l'intérieur de W, des réflexions simples. Et puis, des éléments W écrits en termes S1, S2, SR. Donc, il s'agit du choix d'un ordre total entre les racines simples. Et ça fait un élément de un produit. Ça, c'est un élément de S que c'est terre. Donc, mais un élément escoxétaire peut s'écrire de façon différente. Donc il se trouve, c'est une combinatoire, je ne connais pas la preuve, mais je crois que c'est vrai. C'est que le, donc ça, c'est coxétaire de S et W. Et bien sûr, il y a R factoriel, expression comme ça, mais cet ensemble est de cardinalité 2 puissance R si G est simple. C'est pas simple, c'est un peu plus compliqué, mais c'est 2 puissance le nombre de. Il y a R factoriel d'expression, mais il n'y a que 2 puissance R élément de cosétaire. Et qui est plus petit que tous les éléments cosétaires. Donc les cosétaires, c'est des éléments qui sont conjugués à ces éléments écrits comme ça. Donc ça, c'est de l'ordre W divisé par le H. Donc qui est bien plus grand. Mais c'est vraiment cet ensemble-là qui nous intéresse. Et c'est l'ensemble qu'utilise Steinberg pour construire ces sections. Donc Steinberg montre en fait que les. On écrit ça I de W. Donc W, c'est un élément cosétaire. Et IW', c'est deux éléments de cosétaire, S cosétaire. Alors, sont conjugués, c'est équivalent. Donc dans Steinberg, c'est un peu comme un artifice. On doit choisir un pour construire, mais en fait, ils sont indépendants. Mais en fait, sur le monoïde, ils sont différents. C'est ça qui est, je trouve, assez magnifique. Donc, d'abord, c'est Boutier qui a montré que la section de Steinberg. Se prolonge au monoïde. Donc il prend exactement la même formule que Steinberg, il n'y a pas de modification, et les formules s'appliquent et ça se prolonge. Mais il se trouve que sur le monoïde, donc sur le de VG vers AG fois TSC sur W, donc il y a les sections, mais elles ne sont plus équivalentes. Donc les IW, IW' ne sont plus équivalents. Et en fait, ils induisent une bijection entre l'ensemble corsétaire SW et l'ensemble des orbites régulières nipotents. Donc régulière nipotent, c'est la fibre au-dessus de 0, 0 ici. C'est nipotente. Donc vous voyez, les connus de Steinberg dans le groupe sont tous pareils. Mais ils se prolongent textuellement au bord, mais au bord, ils ne sont plus conjugués. Ils deviennent des orbites différentes au point central. Et ces constructions-là, en fait, donnent une description complète de ce que j'appelais le quotient régulier. Dans ce cas-là, c'est un schéma qui ne sont pas séparés. Donc, il s'obtient d'un nombre de copies du quotient invariant grâce à ces sections. Et puis, ils se recollent. Donc, au-dessus du groupe, ils sont tous la même chose, même point. Mais quand on va au bord, ça commence à se. Ces sections commencent à se différencier. Donc, on a une image un peu comme ça. Donc, ici, et puis au bord, ça se ramifie de plus en plus. Non, enfin, ça ne se ramifie pas, mais c'est des différentes copies. Voilà. Donc, c'est un peu le tableau de ce quotient de Steinberg. Donc, en tout cas, maintenant, on a avec ça, je crois qu'on a une édition complète de ce quotient régulier. Voilà. Et donc, avec ce cousson régulier, c'est facile Donc, si on commence par un élément A dans ce quotient, donc, c'est ce qu'on produit, mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait indépendant. Vous voyez, ici, c'est alpha i de t, ici, c'est multiple wi. Donc, c'est les coefficients des points caractéristiques d'une matrice qui sont dans une double classe. Donc, ça, c'est la condition qui décrit cela. Et donc, on a le J de A qui est au-dessus de O, c'est le J de A, et A étoile en haut du centralisateur régulier. Ah, j'ai oublié de dire, c'est le centralisateur régulier qui est a priori défini sur le quotient régulier, il descend en fait sur ce quotient-là, parce qu'on a des sections. Donc, on descend par les sections de Sternberg. Et donc, on a P de A, c'est la Rassmannienne affine sur J de A, donc J A de F sur J A de O. Donc, il agit sur la fibre Schwinger affine ici, donc régulier. Ben, j'ai oublié de dire qu'une fois qu'on sait que le V régulier est à l'intérieur de V0 et à l'intérieur de V. Dans ces inclusions. Aussi, c'est régulier, c'est automatiquement dans le V0. C'est inclus dans l'esquema de lambda. Donc là, cette action est simple, tout simple, mais le nombre orbite. Correspond au nombre, c'est des points du quotient régulier. Dans la fibre spéciale. Vous voyez ici, si la fibre spéciale est ici, il y aura deux points, deux orbites. S'il est ici, il y aura quatre points. Donc, c'est là. Donc ce sera, ce nombre, c'est 2 puissance. Donc, c'est grosso modo 2 puissance quelque chose, si je ne me trompe pas. Non, mais en tout cas, cette partie-là est complètement déterminée par la structure du quotient régulier. Donc ce qui est plus dur, c'est ce que c'est le reste. Donc, mais PA. Quelle est l'orbite de x lambda gamma moins cet ensemble. Donc c'est là où on va travailler un peu. Donc là, je reviens un peu aux travaux de Kottus et Wiemann. Et ils ont introduit un autre sur le point de Newton. Donc il y a le polygone Newton associé souvent c'est associé à un morphisme sigma linéaire, mais en fait ça associe aussi à quelque chose de linéaire. Donc si on a un gamma, un G régulier semi-simple, de K de T. Donc ici, ça contient le temps maximal T. Donc il n'est pas sûr que gamma peut être conjugué à T. Quand gamma est conjugué à un élément de T, c'est un élément non ramifié. Mais donc il existe on peut ramifier le corps de base, donc il existe un entier E, tel que gamma est conjugué à un élément T de K, T 1 sur E. Après la ramification de la base, il faut demander que le... caractéristique 0, oui. Caractéristique 0, ou peut-être assez grand, plus grand que... Oui. Donc du coup, une fois qu'on l'a ici, on peut utiliser Donc on a l'évaluation de gamma définit donc un élément de du groupe de co-caractère de T tensorisé avec Q. Donc ici il faut mettre le A sur O ici dans le Q. Et ici c'est l'évaluation par rapport à T. Donc en tout cas on a cet ensemble, donc lambda même lambda plus. Donc c'est ça qu'on appelle le point de Newton. Donc ça s'appelle nu de gamma. On a les inégalités de type de la comparaison entre Newton et Hodge. Donc on a le nu de gamma est plus petit que lambda. Donc si x gamma lambda est non vide, donc ça implique que le polygone de Newton soit au-dessous, en dessous du polygone de Hodge qui est ici c'est lambda. Donc ça démontre pareil, donc ça c'est hyper standard. Donc là, il se trouve qu'il y a deux conditions, que c'est ci seulement ci, ceci, et puis la condition qu'ils ont la même image, et lambda est la même image. Que par le morphisme de Kurtwitz. Le morphisme de Kurtwitz, essentiellement, il distingue les composants connexes de races manières fines, donc ils doivent être dans le même composant connexe. Donc ça, c'est pas... La définition, c'est un peu compliqué, mais géométriquement, c'est très clair. Et puis, donc, c'est l'autre condition est ça. Il demande un peu d'effort, mais Chi a démontré ça. Et ici, enfin, j'y viens ici parce que pour revenir à ce point-là, c'est pas toujours le cas que la phi spéciale de A s'envoie dans zéro, dans l'amphibie impotent. Mais quand nu gamma soit vraiment dans l'intérieur du polytope engendré par W lambda, peut-être très à l'intérieur, je ne me souviens pas exactement quelle était la condition, mais c'est très intérieur. Alors ça implique là que la fibre spéciale de A du problème caractéristique de A soit nipotent, soit nul. Donc dans ce cas, on a exactement 2 puissance R. Composante régulière. Donc il y a une inégalité, le nombre de composantes régulières soit au plus de puissance R, mais cette égalité lorsqu'il y a une condition du type que le point de Newton soit très à l'intérieur du polytope de Hodge. Voilà. Donc maintenant on va chercher à comprendre comment on peut atteindre les autres composantes, les autres composantes en quelque sorte. L'histoire de cosson régulier ne nous donne que les orbites les régulières. Alors ici, il y a la remarque de base, c'est qu'en fait, les fibres de Springer multiplicatif ou additif sont en fait assez faciles de calculer dans le cas non ramifié. Parce que c'est dans le cas où on sait calculer l'ordre d'un orbital. On a une formule pour ça, on peut le faire géométriquement. Et c'est difficile de calculer dans le cas ramifié, où on n'a pas de formule. Donc en quelque sorte, la réponse à la question du type la dimension des fibres de Springer ou les composantes irréductibles sont connues dans le cas où l'élément est non ramifié. Ils ne sont pas connus dans le cas ramifié. Alors comment on fait pour passer ramifié ou non ramifié ou ramifié? En fait, il faut mettre tout dans la fibre de Hitchin. Parce qu'il se trouve que quand vous voyez localement, dans le KSN2 par exemple, essentiellement non ramifié c'est une certaine valuation des paires, et ramifié c'est lorsque cette valeur est impair. Donc ça se passe dans l'ordre de dégénérescence du non ramifié, ramifié, non ramifié. Donc un élément ramifié peut se dégénérer vers un élément non ramifié. Un élément non ramifié peut se dégénérer par un élément ramifié. Donc si on connaît les formes de dimension pour la moitié d'entre eux, on connaît par les autres, juste par la semi-continuité de la dimension, si on s'arrange bien. Mais tout ça, ça demande assez de doigté, parce qu'il n'y a pas... Il s'agit de construire des courbes dans la base de Hitchin, certaines conditions. Donc je vais esquisser cette jolie idée de chi. En fait, l'idée, c'est la formule de dimension, la dimension... et aussi la description des composantes irréductibles. Donc ça, ils sont connus dans deux cas. Vous pouvez en deux cas. Donc le premier cas, c'est le cas lambda égale à 0. Dans le cas lambda égale à 0, donc on cherche les trucs comme g moins 1, gamma g, soit dans g de O, dans le groupe. Donc dans ce cas-là, on peut répliquer l'argument de Kajalusti. Donc ça, c'est le même argument, le cache d'arélustique. Dans le cas d'un jet de lit. Donc, au lieu de G moins 1 de gamma 0, soit dans l'algèbre de lit de Bourrel, soit dans le Bourrel. Ça, c'est exactement le même argument marche. Si lambda R est à 0, et j'ai moins un gamma dans G de O. Donc, le deuxième cas qui se conduit, c'est le cas où gamma est non ramifié. Simplement parce que dans le cas non ramifié, on sait calculer l'intégrale orbitale. Donc je vais expliquer brièvement comment ça marche ici. Donc on va donc l'intégrale orbitale, donc gamma, c'est un élément de Tutor. Et ce F lambda, disons, c'est une caractéristique de GO, T lambda G de O. Donc ici, bien sûr, c'est que K, c'est un confini. Donc l'intégrale a un sens. Mais ce qu'on... La question? Non. Donc ici, on va calculer l'intégrale de... F lambda G moins 1 gamma G dg peut-être divisé par dg gamma, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On va écrire comme d'habitude, donc F lambda, on va écrire G comme K plutôt A U K, où K c'est dans G de O. U, c'est un truc unipotent. Et A, c'est dans le tore. Donc, le tore, le A, se commute avec gamma, mais ça ne joue pas de rôle. Et puis, on a divisé par ça. Donc, c'est la même chose que F lambda de U. Et puis, le K, la fonction est... Et doublement invariant par G de O, donc le K disparaît aussi. Donc on a, c'est ça. D de U. Et puis bon, ici, il y a le... Il y a le coup génial. On va prendre le... comment on va prendre le gamma, fois gamma moins 1, U gamma, U, je crois, U ici. Voilà, on va prendre ça. Des U. Et ça, c'est dans U de F. C'est l'argument que j'ai appris dans ton bouquin. Mais... Donc ici, on va faire le U' égale à gamma U, ce commutateur, pardon. Ah oui, il y a U inverse, pardon. Oui, bien sûr. Gamma moins 1, U moins 1, ce commutateur. Et ça devient une intégrale F lambda de gamma U'. Donc du prime. Donc oui, puis il y a un facteur jacobien. Parce que l'application de U dans gamma moins 1, U moins 1, gamma U. Donc cette application est en fait un diffeomorphisme. Un diffeomorphisme et il y a un facteur de Jacobi qu'il faut mettre en intégrale. Donc, de toute sorte qu'on transforme cette intégrale qui est difficile à calculer en une intégrale. En fait, le facteur ne dépend que de gamma. Donc, pour le sortir. Donc, ça devient cette intégrale. Donc, qui est maintenant l'intégrale de terme constant, qui est l'intégrale qui définit la transformation de s'attaquer. On le connaît. Si on connaît la transformation de s'attaquer de cette fonction, on connaît cette intégrale. Voilà, donc il s'agit en fait ici de transformer ces calculs intégrales en des variétés. Et on aura le résultat. Bon, ça, c'est un peu laborieux, mais on y arrive. C'est un peu laborieux parce que c'est... en fait, le plus dur, c'est se transformer. Mais on y arrive. On va, au lieu de x gamma lambda, qui est g dans gf mod g de o, tel que g moins 1 gamma g dans g o t lambda g de o, eh bien on prend le y lambda gamma, où ici il prend seulement l'intégrale sur la partie unipotent. Donc ici, on va utiliser en fait la décomposition Wazawa de ce G. On va l'écrire en termes des A, U, K. Et comme, de toute façon, le K, ça part dans le quotient. Donc le A, ça va être un T puissance quelque chose et qui va être gommé par l'action de haute symétrie. Donc, il s'agit de situations, enfin des chaînes infinies de droites projectives ou d'autres choses. Mais en tout cas, ce qu'on fait ici, c'est un bout. C'est un bout un peu comme ça. Ce n'est pas un bout fermé, mais c'est un bout, si on répète, ça couvre. Ça couvre l'espace, de toute façon. Donc, on sait que le pi 0 de PA fois est égal à x lambda également. Si on choisit avec le choix, on peut faire agir le groupe de composants connexes du groupe symétrie sur le fil de Springer affine, et ça, c'est un domaine fondamental de cela. Et donc, en particulier, le composant tiré du type de x lambda gamma divisé par pi 0 de P1, c'est le composant tiré du type de ce bout. Donc, qui du coup est fini. Donc, ici, ce n'est pas fini. Il faut diviser par le groupe de composants connexes de pi 0 de P1, donc symétrie. Donc, maintenant, on étudie ça, donc qui est quand même plus simple. au lieu de G, on va avoir U dans le unipotent. Donc là, il y a ce calcul-là. Il y a changement de variable, qui au lieu de gamma moins 1, U moins 1, gamma U, on va remplacer par U prime. Il devient une intégrale de terme constant. Donc ça veut dire que cette variété est liée au cycle de Mirkovich-Vilonen. Donc, ici. Donc, il y a un diagramme. Donc, ici, on a Y. Donc, d'abord, donc, on va prendre une sorte de domaine fondamental. Donc, ça, I, lambda, gamma. Et puis là, il y a un truc dimensionnement infini qui va à notre dimension infinie et qui va se projeter sur la variété de Mirkovich-Vilonen. Donc gamma ici c'est T puissance de nu. Donc c'est le même nu ici. Donc ici, c'est une application, G de gamma, c'est essentiellement cette application qui m'écrit là-bas. U donne U prime égale gamma moins 1, U moins 1, gamma U. Donc, textuellement, on a ceci. Donc, ça, c'est dans l'application du groupe de Lacé de NU dans NU. Mais en fait, comme l'écrit un peu, on voit qu'on peut quotienter, ça devient des choses dimensions finies. Et ça, c'est des torseurs. Et le facteur de volume, le facteur de Jacobien ici, ça donne que les fibres de ce morphisme-là sont irréductibles et de dimension connue, donc reliées au facteur de Jacobien. Dans les formules d'intégration. Et donc, toutes ces flèches, elles sont bien comprises du point de vue dimension des composantes, induit des budgets qui sont chez les composantes irréductibles. Et on connaît celui-là. Donc on sait que S nu, dimension de S nu, lambda et rho contre nu plus lambda et les composantes irréductibles des S nu rho lambda c'est les multiplicités de poids nu dans la représentation de pi au poids v lambda. Donc voilà, et puis bon, on remonte ce diagramme, on a les mêmes résultats pour cette variété là, pour cette partie du sur une partie du de la fibre de Springer affine. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez cette formule d'intégration dans le état géométrique assez remarquable pour cette fibre de Springer affine. On connaît la dimension, toutes les fibres sont les mêmes dimensions. Parce que c'est vrai pour les cycles de Mirkovich-Vilonen. Et puis, l'ensemble irréductible, c'est quand même une tête remarquable. Le nombre de, une fois qu'on a divisé par l'axiome du réseau, on retrouve cet ensemble de multiplicité de poids, qui est quand même une autre tête. Je me souviens qu'on avait 2 puissance L, le corsetaire, le WS. Donc, qui est, bizarrement, on a cet ensemble de corsetaires de WS soit dans cet ensemble de comment dire, du type de G lambda, dans le cas où nu, soit vraiment à l'intérieur du polygone. Donc je n'ai pas très bien compris quel était cet ensemble, comment on peut mettre cet ensemble des éléments de course éthère dans cet ensemble des multiplicités de poids. Mais c'est comme ça, c'est ce que dit la géométrie. Et puis voilà. Donc, on a complètement, avec cet argument, on comprend complètement les deux cas. Le premier cas, c'est lambda égale à 0, donc j'ai de haut, mais c'est là, on recycle l'argument de cage en loustique, ça marche parfaitement. Et puis l'autre cas, c'est lambda avec un com, mais gamma est non ramifié. Donc là, c'est l'argument d'intégration. Et donc, on considère que les éléments où en une seule place, dans toutes les places, soit dans G de haut. Tous les bords en un seul point. Et on peut, en ce point-là, l'élément peut être ramifié ou non ramifié. On peut dégénérer, on peut faire une famille qui dégénère. D'abord, il faut rester restreint au cas où globalement c'est elliptique, pour qu'on a un truc propre. Donc on a bien la semi-continuité de la dimension. Et donc, on peut dégénérer un élément ramifié vers un élément non ramifié. Donc là, une estimation par le haut, et pour faire l'inverse par le bas. De toute façon, il y a des formules qui sont compliquées, mais on voit bien que la fille de Spinner, la fille divisée par le groupe, elle est 0. Donc, à partir de cela, on retrouvera les formules. Donc c'est comme ça que donc en construisant vraiment à la main ces familles un paramètre de générer un élément, une sorte de démon global, mais localement non ramifié, vers un élément qui est localement ramifié, et inversement, que Chi arrive à démontrer la formule dimensionnellement générale. Mais bien sûr, il n'a plus de contrôle sur l'ensemble de composants irréductibles dans le cas ramifié. Mais il n'a que la formule de dimension. Mais il a quand même une conjecture sur l'ensemble de composants irréductibles. Donc voilà, c'était le résultat principal de Chi. Et donc on a donné dans la situation, donc on peut mettre tout ça dans le... On peut mettre tout ce bazar, bon, ça devient un peu lourd, je dois admettre, avec toutes ces machines, avec le Weinberg, on construit ces formules multiplicatives, et on pourrait se poser la question, le terme de support, le terme de composition, dans ce cadre-là, parce que ça donnerait par exemple le fondamental d'origine, sans passer par le cas additif. Bien sûr, c'est connu, mais je pense que ça vaut le coup d'étudier. Et c'était un peu le travail de Wang. Et je dois dire que c'est techniquement assez difficile, mais à la fin, il y a une question qui est vraiment intéressante, qui n'est pas entièrement résolue. C'est en fait qu'il n'arrive pas à déterminer le support exactement comme ça va le faire dans le cas additif. Dans le cas additif, les supports... Les petits supports sont tous causés par l'endoscopie. Lorsqu'on a un saut dans le π0, le p lambda, dans le groupe de composants des groupes symétrie. Et c'est le seul saut possible. Et l'argument était parce que justement, les sauts sont causés par les composants irréductibles des fibres de Hitchin. Et c'est la même chose que le groupe de composants connexes de π0, le p lambda. Mais dans ce cas, dans ce cas multiplicatif, il y a d'autres causes des composants irréductibles. La partie régulière, c'est plus facile, c'est des courses éthères, mais il y a des sauts qui sont donnés par les nombres beaucoup plus grands, c'est des nombres de multiplicité. Et donc, ça c'est un phénomène que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'en fait, la décomposition de la théorie de décomposition dans le cas multiplicatif, est très sensible au lambda. Il y a un lambda, puisque le lambda est grand, puisqu'on a de ses poids. Donc, si on s'autorise à rêver un peu, ça commence à s'accrocher au rêve de l'enlance avec bioendoscopie. Donc ça, c'est ça la formule. Quand on fait quelque chose d'infini, c'est vraiment la formule des on peut mettre les fibrations multiples irréversibles les unes dans les autres, et on a quelque chose qui dépend. Donc dans l'idée de l'enlance, la formule des traces va dépendre vraiment très sensible à lambda. Donc quand il y a lambda à plus grand, il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont produites. Oui, donc c'est pareil, donc il y a ça ne change rien, oui. Donc ça ne change rien. Oui. Mais dans le cas de Jebel-Di, c'est qu'en fait, il n'y a pas de place pour que les communautés réductibles. Le pi0 mange complètement pour les communautés réductibles. Donc ici, en fait, ça ne mange pas, il y a des choses vraiment qui apparaissent. Et s'il s'agit de contrôler ça, il y a un espoir, ça peut être donné. Donc pour l'instant, que la façon dont il démontre les fondamentales, c'est que même avec ça, il détermine un ensemble fictif de supports, et ça suffit pour démontrer, calculer le nombre de points sur le point générique des supports. Ça donne des fondamentales. Mais c'est vraiment intéressant de dire exactement est-ce qu'il y a un support ou pas. Donc est-ce que le support, ça dépend vraiment de lambda ou pas. Je pense que oui, mais en fait, on ne sait pas démontrer. Voilà, merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.